Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonjour Stéphane. Dites-moi, est-ce que vous connaissez les applications de rencontres? Sûrement avez-vous entendu parler de Tinder, OkCupid, Adopt-un-mec ou Fields. Mais savez-vous comment vous y prendre pour créer votre profil? Pas de souci, je vous donne le mode d'emploi. Même si chacune de ces applis a sa propre recette, le principe reste toujours le même. Le profil d'une personne apparaît sur votre écran. En premier lieu, vous voyez une photo. Là, il y a deux écoles. Soit vous voyez instantanément que cette personne ne vous plaît pas et vous passez au profil suivant, soit votre curiosité est piquée et vous souhaitez en savoir plus. Généralement, les gens ne sont pas avares de photos. Leur but, donner envie aux partenaires potentiels. Vous pouvez très bien être tout sourire ou tirer la gueule, les deux fonctionnent. Ça vous étonne? Pourtant, vous le voyez bien dans les pubs de parfums, l'inaccessibilité intrigue, attire même. Viennent ensuite celles laissant apercevoir certaines parties du corps que vous souhaitez mettre en valeur. Quoi que vous cherchiez, il vous faut une attirance physique. Si vous êtes suffisamment à l'aise, les photos prises en maillot de bain sur la plage sont un must. Bah oui, il faut bien pâter un minimum le chaland. En bonus, vous pouvez aussi vous mettre en scène réalisant une activité que vous aimez et que potentiellement vous voudriez faire avec l'autre. Faire de l'escalade, de la voile, caresser votre chat ou dévorer un kebab en seulement deux bouchées un dimanche à 4h du matin en sortant de boîte de nuit, je confesse, cette dernière image marche plutôt bien sur moi. Après tout, pourquoi se prendre au sérieux? Enfin, arrive la partie la plus compliquée, la description biographique. Vous pouvez très bien être factuel, poétique, humoristique. L'idée est de parler de vous en suscitant l'intérêt du lecteur. Les seules limites sont le mensonge et l'imagination. Il y a cependant une problématique commune à tous ces profils. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter pour à la fois attirer les gens qui pourraient me plaire et en même temps éloigner ceux qui ne m'intéresseraient pas? Il vous faut alors devenir clivant. Vous pouvez préciser vos opinions politiques, vos goûts et surtout vos attentes relationnelles. Peut-être que ce dernier point vous semble un peu flou, surtout si pour vous cela fait partie de vos objectifs de vie d'avoir une relation sentimentale sous la forme d'un couple classique et ne concevez rien d'autre. Il y a cependant pas mal de gens qui ne cherchent pas l'amour avec un grand A, sans s'empêcher non plus qu'il puisse advenir, ni de relations stables et exclusives, voire même qui cherchent des relations. De plus, il est même possible que cette non-exclusivité, c'est-à-dire le fait de ne pas se limiter qu'à un seul partenaire, ne soit pas seulement sexuelle, mais aussi sentimentale. Je sais que pour beaucoup, c'est très difficile, et crée même un sentiment de répulsion au simple fait de l'imaginer, tellement cette chose si intime, qui est le cadre dans lequel peuvent s'exprimer nos sentiments, est ancrée en chacun de nous. La pensée que notre partenaire de vie est, peut-être au fond de lui, des aspirations différentes de vous, vous effraie, puisque celle-ci existe. C'est rassurant d'ignorer ce que d'autres peuvent vouloir vivre, parce qu'on ne s'en inquiète pas. Maintenant qu'on a ça en tête, on se rend compte que c'est une chose très importante à préciser. Ce serait dommage de commencer à se rapprocher de quelqu'un, qu'apparaissent une attirance et un attachement mutuel, pour se rendre compte que les envies ne le sont pas. Donc, en précisant si vous ne cherchez qu'à vous amuser sans engagement, ou une relation mais ouverte sexuellement, voire carrément sentimentalement, vous vous protégez vous-même, mais aussi les autres. Un genre de préservatif des cœurs brisés à enfiler dès que possible pour éviter toute maladie sentimentalement transmissible. Sauf qu'il arrive qu'il craque, et que se répande alors le flot des pires émotions. La tristesse, la colère, la haine, bref, toutes celles que l'on ressent lorsque l'on est du mauvais côté de la rupture. Et oui, qu'est-ce que vous pensiez? Étant plutôt dans ce mode de vie, on me rabâche souvent que c'est vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Que c'est seulement chercher les avantages sans les inconvénients, une quête perpétuelle de bonheur léger, au risque minime, comparée à la vraie relation de couple fusionnelle et à son déchirement. Pourtant, ne pas se suffire d'une seule personne ne nous protège pas ni d'elle ni des autres. C'est même le contraire en vérité. Voyez comme il peut être difficile de faire tenir une relation, imaginez plusieurs. Effectivement, c'est différent. C'est pas pareil. C'est le but d'ailleurs. Mais il existe des points communs à tous les types de relations. Elles sont toutes là pour créer et partager du bonheur avec quelqu'un. Il arrive que toutes les parties n'aient pas forcément les mêmes attentes entre elles, ce qui peut engendrer un terrible bordel, ou que des envies changent. Savoir ce qu'on veut avec quelqu'un, c'est déjà pas simple, alors imaginez savoir ce que vous voulez avec d'autres. C'est un autre point commun. Aucune ne peut nous préserver totalement du changement, de la trahison, de la déception et du chagrin. Si on ne peut pas empêcher que cela arrive, on peut toujours anticiper et prévenir. Apprendre de ses erreurs, discuter, mesurer la confiance que l'on donne, être lucide sur la situation et ne pas engager des personnes avec vous si vous n'êtes pas capable de le leur rendre. Bref, comme n'importe quelle relation finalement. Tout cela m'amène à une question. Que vous ayez le cœur suffisamment gros pour entretenir des relations avec plusieurs personnes ou non, comment faites-vous pour que le sucré l'emporte sur l'amer?
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.